RFI, 7h30, à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
6h30, N'Djamena, bonjour Nemo en Peace.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Des sommets de l'État au geôle d'une prison tchadienne, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison.
L'ancien bras droit de Mahamat Idriss Déby, reconnu coupable de corruption passive. On vous explique la dégringolade de ce personnage dont le rôle a été majeur, N'Djamena. Sur les traces de Léon XIV, nouveau pape et ancien chef de l'ordre de Saint-Augustin, qui s'était rendu plusieurs fois en République démocratique du Congo. Les souvenirs sont intacts dans le Haut et le Bazouélé. Témoignage à suivre. La RDC, où le bureau onusien des affaires humanitaires tire la sonnette d'alarme et réduit de moitié sa voilure en raison notamment de la suspension de l'aide humanitaire américaine. Les secteurs de la santé et de la sécurité alimentaire sont en grand danger. Verdict tombé au Tchad dans le procès d'Idriss Youssouf Boy, l'ancien ministre directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby. Il écope de 5 ans de prison et d'une amende d'1 million de francs CFA, l'équivalent d'environ 1500 euros pour corruption passive. Ses avocats se disent surpris, dénoncent l'absence de preuves matérielles dans le dossier et annoncent faire immédiatement appel. Appel aussi annoncé selon Manara TV par la défense d'Abou Tachim Bouder à l'initiative de la plainte contre Idriss Youssouf Boy. Lui aussi est condamné à 5 ans de prison, mais pour corruption active. Mais alors, comment expliquer une telle chute pour l'ancien bras droit du chef de l'État? De son limogeage à son emprisonnement dans les locaux des renseignements généraux, Esdras Dikoumana nous raconte.
Officiellement, l'ancien tout-puissant chef de cabinet du président tchadien paye le prix d'une simple affaire de corruption, même si les montants en jeu sont conséquents. Il a été accusé par Hachim Bouder, un ancien maire d'Amdjaras, et l'un des principaux bénéficiaires de contrats publics de construction d'infrastructures, notamment de l'Enedi, la province d'origine des Itno. Il y a dans le clan au pouvoir de plus en plus de divisions et de mécontentements, notamment par rapport à la question soudanaise ou aux infrastructures non réalisées, malgré des dizaines de milliards de francs CFA décaissés. Mahamat Idriss Déby a décidé de lâcher son bras droit, d'autant que Youssouf Boy est très détesté dans les milieux du pouvoir, notamment pour ses origines selon les sources, ce qui les a calmés pour le moment, ajoute-t-elle. En plus, le président tchadien l'avait déjà limogé, emprisonné avant de passer l'éponge et de le ramener à ses côtés dans une autre affaire de détournement de fonds en 2022. Mahamat Idriss Déby n'avait pas alors hésité à le mettre en garde publiquement contre une récidive dans son autobiographie de Bédouin président paru l'année passée. Mais en réalité, ce qui a été décisif dans cette affaire selon les sources, ce sont les Émiriens qui ont exigé la tête de Youssouf Boy après avoir constaté qu'il avait détourné une partie de leur aide. Les sommes en jeu sont si importantes que Mahamat Idriss Déby s'est résolu à le sacrifier, assure-t-elle.
Esdras Dikoumana, le parcours de Robert Francis Prévost décortiqué depuis jeudi soir, celui qui est devenu pape sous le nom de Léon XIV et succédant à François dans les années 2000, dirigeait l'ordre de Saint-Augustin au niveau mondial, un ordre qui a vu le jour au XIIIe siècle et qui compte environ 3000 membres aujourd'hui dans une cinquantaine de pays, dont la plupart en Amérique du Sud, en Asie et sur le continent africain, présent en République démocratique du Congo notamment, où il s'est rendu plusieurs fois et où son élection à la tête de l'Église catholique a été reçu avec beaucoup d'émotion par les fidèles et Amélie Tulé par ceux qui l'ont rencontré.
À plus de 2000 km de Kinshasa, près de la frontière avec le Soudan du Sud, dans le diocèse reculé de Dungu, dans le Haut-Tolé, le père Blaise Mbiko Yezou se souviendra longtemps de cette soirée.
Quand je suivais à la télé avec les confrères, voilà, on était éblouis, c'était un grand cri, une joie immense, parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est juste magnifique, j'étais ébloui.
Celui qui allait devenir pape était venu à Dungu en 2010. Le père Michel Mivungu Bakaneru l'avait aussi accompagné à Poko et à Amadi, deux petites communautés du Bazouélé.
On arrive quelque part, il n'y a plus d'avion, on prend les véhicules, rentre crisé dans des routes comme ça sur terre. Il a voyagé dans ces conditions-là, il a dormi dans nos conditions-là sans poser un problème. Vraiment simple, ne pas exigeant, nous encourager dans ces conditions-là pour que nous puissions très bien faire notre apostolat.
À Kinshasa, le révérend père Olivier Gangola, vicaire régional des Augustins du Congo, a rencontré Robert Francis Prévost en 2002, 2009 et 2010. Il est très ému de le savoir aujourd'hui à la tête de l'Église catholique.
Un de nous devient assume cette responsabilité, cette charge de l'Église universelle. Il était vraiment très attentif de connaître les noms de tout le monde, très simple, très accueillant, très ouvert. Il mangeait avec nous, riait avec nous. Il était vraiment un père parmi nous.
Le révérend père Gangola se dit aussi touché par le message de paix du nouveau pape Léon XIV, surtout pour la partie est du pays.
Léon XIV qui doit rencontrer ce samedi certains cardinaux, les hauts dignitaires qui seront chargés de l'assister tout au long de son pontificat. J'ajoute qu'il fera une apparition au public demain à l'occasion de la prière dominicale. La RDC encore où les Nations Unies et OCHA, le bureau des affaires humanitaires, annonce une réduction de près de moitié de ses objectifs d'aide dans le pays. L'ONU parle d'un déficit majeur de financement. Lancé en février, l'appel de fonds pour mobiliser plus de 2,5 milliards de dollars est resté en grande partie ignoré. Et les décisions du président américain Donald Trump n'y sont pas étrangères. Plus de détails avec Patient Ligaudi.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
Et sachez qu'une autre branche des Nations Unies, le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dévoile des chiffres alarmants concernant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Selon l'agence, plus de 36 millions de personnes peinent à y satisfaire leurs besoins alimentaires. Le PAM, qui craint que ce chiffre ne dépasse les 50 millions au cours de la période de la soudure entre deux récoltes. Là aussi, c'est une baisse des financements, notamment américains, qui est rendue responsable de la situation. Le président de l'Assemblée nationale congolaise en visite en Ouganda, Vital Kamerhe, Kamerhe est arrivé jeudi soir à Kampala. Il mène une délégation d'élus avec un objectif principal, y renforcer la diplomatie parlementaire sur fond de méfiance côté congolais, malgré une coopération militaire active entre les deux pays. Kinshasa s'inquiète notamment du passage régulier sur le sol ougandais de certains opposants. Vous retrouvez plus d'informations sur cette visite sur RFI.fr. La RDC enfin, où se poursuivent des affrontements dans l'Est, dans plusieurs villages du Sud Kivu, entre combattants du groupe armé M23 et Wazalendo, les alliés de l'armée congolaise. En dépit des avancées dans les discussions sur un potentiel cessez-le-feu à Doha, conséquence de cette instabilité, la société chinoise d'exploitation minière Tuangiza Mining a annoncé l'arrêt temporaire de ses activités à Luinja, territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Explication, Laurent Corot.
Dans une lettre adressée à tous ses employés, le directeur général de Tuangiza Mining SA, Chao Xiangfeng, précise que la société a été mise dans l'obligation de suspendre ses activités sur injonction de la nouvelle administration en place dans la province du Sud Kivu. Le directeur recommande que tous les engins et véhicules de Tuangiza Mining soient placés en stationnement en attendant les nouvelles instructions de la direction générale. Chao Xianfeng recommande aussi la réduction du nombre d'employés résidents dans les différents camps d'hébergement de la société minière. Il exhorte enfin les employés non résidents à ne pas se présenter au lieu de travail durant toute cette période. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation au moment opportun, rassure-t-il. Cette situation intervient quelques jours après la prise de contrôle de la localité de Luinja par la FCM-23. Jusque-là, les responsables du groupe armé n'ont pas commenté cette décision.
J'ajoute qu'un peu plus au sud de Luinja, la ville d'Uvira reste sous la menace de la FCM-23. Certains de leurs hommes ont été aperçus en début de semaine au centre du village de Katogota après d'intenses heurts avec les Wazalendo depuis les montagnes de Kaomba. En Centrafrique, le rebelle Armel Sayo a été transféré à Bangui depuis le Cameroun dans la nuit de lundi à mardi. Le procureur de la République précise que le chef du groupe Coalition Militaire pour le Salut du Peuple et le Redressement est poursuivi pour association de malfaiteurs plusieurs rébellions, mais aussi crimes de guerre et crimes contre l'humanité après une attaque de ses hommes contre l'armée. C'était en février dernier. La Centrafrique où le journaliste Landry Ulrich Nguema Ngokpele a passé sa deuxième nuit en cellule après son arrestation jeudi par la gendarmerie. Les raisons restent floues et les journalistes locaux dénoncent une arrestation arbitraire et l'absence d'éclaircissement du parquet sur les raisons de l'interpellation du directeur de publication du journal Le Quotidien de Bangui. Et puis au Cameroun, alors que la présidentielle est attendue au mois d'octobre, on ne sait toujours pas si Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, briguera ou non un nouveau mandat. Et une partie de l'opposition, elle, souhaite ne pas partir en ordre dispersé pour augmenter ses chances de victoire. C'est ce qui ressort en tout cas d'une déclaration faite hier par Anissé Ekané, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il explique l'objectif de cette mutualisation des forces.
Notre objectif, c'est d'amener les candidats déclarés principaux à se mettre d'accord sur une candidature forte, consensuelle. Ça suscite effectivement du scepticisme parce qu'il y a des obstacles du côté du pouvoir en place, il y a des menaces, etc. Pour le pouvoir, tenter de s'unir pour s'arranger aux élections, c'est faire de l'insurrection. C'est pas que nous avons peur de ces menaces, on est un peu habitué. Depuis 90, le pouvoir fonctionne avec la carotte et le bâton. Donc ce sont de véritables obstacles complètement illégaux que le pouvoir en place utilise pour empêcher une synergie de l'opposition face à lui. La défaite est automatique pour ceux qui n'entreprennent rien. Mais la victoire est possible pour ceux qui osent. Nous osons penser que le travail que nous sommes en train de faire augmente les chances de victoire de l'opposition en 2025.
Anissé Ekané, joint par Vincent Niébédé. Et puis l'actualité du continent en bref, un protocole d'accord sur la coopération sécuritaire signé jeudi entre le Niger et l'Iran. Pour l'occasion, une délégation iranienne était en déplacement à Niamey, à la clé de la formation et du partage d'informations dans différents domaines. Lutte contre le terrorisme et la criminalité ou encore contrôle des frontières. Signature qui survient un peu plus d'un an après la visite à Téhéran du premier ministre nigérien Mahamane Lamine Zeyne. Le Niger où trois journalistes de la radio Sahara FM ont été relâchés ce vendredi, interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi par la police d'Agadez avant d'être placés en garde à vue. Ils avaient relayé une information publiée par LSI Africa concernant des contrats entre Niamey, Moscou et Ankara qui auraient été rompus. Le groupe Air Info, dont fait partie Sahara FM, assure que les trois ont été présentés au juge hier qui les a libérés. Sans poursuite et puis pas de rassemblement hier à Bamako, il avait été reporté par les organisateurs après la suspension de toutes les activités politiques du pays par les autorités de transition. En revanche, plusieurs cas d'enlèvement d'hommes politiques ou tentatives ont eu lieu hier et avant-hier. Jeudi dans la journée, c'est un militant du parti Yelema qui a été enlevé par des hommes encagoulés. Un peu plus tard, un ancien député, Alassane Abba, lui aussi arrêté. Et ce vendredi, des tentatives d'enlèvement ont également été signalées. Vous en lisez plus à la une de notre site www.rfi.fr. Je vous repasse la main, Julien Coquelroem.
Merci Nemo Ampis. À tout à l'heure. RFI Matin, 5h40.